grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Attention, je vais lâcher trois petites lettres qui, à elles trois, sont une bombinette PMA. Et ça y est déjà, je le sais, votre cerveau turbine, les images viennent, des éprouvettes et des gamètes et même une pluie de paillettes. Allez, le mot à peine lâché, le sujet à peine lancé, ça y est, les langues se délient, ça y est, l'encre coule et nous voilà prêts déjà à ferrailler, à nous étriper, éternelle variation autour du thème des anciens et des modernes, des progressistes, des passéistes et tout ça pour 70 000 enfants aujourd'hui en France, 3,4% des naissances. C'est peu, hein, c'est tout. Toute notre conception de la famille qui vacille, toute notre vision de la filiation qui est remise en question. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et au fond, ça sert à quoi un père? Oui, c'est bien de ça dont il s'agit aussi, ce qui nous travaille au fond, le père social face au père biologique, l'affectif ou le tout génétique, et puis évidemment la question des origines. Les enfants nés d'un don peuvent-ils avoir accès à leurs origines? Cette question posée, c'est tout l'édifice qui se met à trembler. Alors on va le secouer ce matin. Et avec vous, venez, rejoignez-nous, écrivez-nous sur l'appli France Inter ou sur notre page Facebook, ou bien appelez-nous au 01 40 5, 24, 7000. Partagez vos réflexions avec nous, racontez-nous vos histoires et souvenez-vous, on adore ça.
France Inter. Grand bien vous fasse. Julia Foyce.
Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Bresse, présidente de l'association PM Anonyme, et Geneviève Delézy de Parseval, psychanalyste, chercheuse en sciences humaines, spécialiste des questions de bioéthique. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Julia.
Avec nous en ligne, Marie, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez 44 ans, il y a un an, vous mettiez au monde la petite Colette, issue d'une PMA. Elle aura la possibilité de connaître son père biologique à sa majorité, car vous avez opté pour un don non anonyme. C'était important pour vous?
C'était essentiel, en fait, pour moi-même. En fait, je crois que c'est à partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait des donneurs non anonymes que le projet a vraiment commencé à se dessiner dans ma tête.
Pourquoi?
Ça me paraissait assez essentiel que son père biologique soit pas une sorte de fantôme. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'avais le sentiment que ça pouvait éventuellement être. Et ça me faisait peur que ça puisse être pour elle un vertige, qu'il puisse la poursuivre toute sa vie. Donc, c'est ce que je redoutais, quoi, en tout cas. Et donc, le fait qu'elle puisse le rencontrer à sa majorité, ça a tout changé pour moi. Ça a chassé un peu l'idée de ce fantôme. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'elle le fera, d'ailleurs qu'elle le rencontrera, mais en tout cas, moi, de rendre possible le fait que ça puisse arriver, ça me semblait essentiel, ouais, de laisser ce choix-là.
Geneviève Delézy de Parseval, vous vouliez intervenir sur le témoignage de
Marie.
Vous êtes
allée où pour avoir ce donneur,
Marie?
Ce qu'on appelle open donneur, un donneur qui accepte qu'à sa majorité, à la majorité de l'enfant, celui-ci le connaisse. Vous êtes allée en Belgique, en Hollande?
Non, au Danemark.
Au Danemark.
En fait, je suis passée par une banque de sperme du Danemark, ouais.
Dites-nous, comment ça se passe quand vous contactez une banque du sperme danoise ou autre, hein, d'ailleurs, comment ça se passe? Vous, qu'est-ce que vous savez du donneur, par exemple? Vous avez accès à quoi?
Alors, c'est très concret, c'est énormément de renseignements sur d'abord son physique, mais aussi sa personnalité. Il y a trois pages de questionnaire à peu près, plein de questions qui donnent une espèce d'idée de sa personnalité très forte, en fait, comme c'est idiot, mais des questions comme c'est qui votre héros quand vous étiez petit, ou votre voyage préféré. Enfin voilà, c'est des choses qui incarnent, qui font incarner en tout cas quelque chose, quelqu'un. Et il y a deux photos, enfin moi c'est ce que j'ai eu, j'avais deux photos et...
Deux photos aussi du donneur adulte?
Enfant.
Non, du donneur enfant. C'est des photos de lui, bébé.
Marie, on vous a perdu. On vous a perdu, Marie, vous êtes là? Oui, évidemment, vous connaissez ce système de dons, Geneviève Delézy de Parseval. En fait, il y a un dossier qui est composé, je crois, d'éléments non identifiants pour les mères.
Oui, très détaillé. De quoi est morte la grand-mère? Enfin, à mon avis, parce que j'ai pas mal de patientes qui sont dans ce cas-là, c'est presque trop. C'est-à-dire que trop au sens où ça devient presque un père. Or, notre expérience, c'est que ces jeunes gens adultes ne cherchent pas un père. Un père, ils en ont un.
On va pouvoir en parler de ça, effectivement, la différence entre les deux. Néanmoins, Vincent Bresse, ces éléments permettent de répondre à quelques questions, parce que d'après ce que j'ai compris, l'enfant, Colette, l'enfant de Marie, aura la possibilité de rencontrer son donneur ou son père biologique à sa majorité, mais avant, elle aura ces éléments-là, puisque ces dossiers sont à sa disposition, à disposition de l'enfant. Ça, c'est important, selon vous ?
Alors oui, c'est important. Bah, déjà, moi je dis bravo à Marie qui a eu cette préoccupation par rapport à son enfant. Je crois que ça illustre ce que les parents sont en train de devenir et plus globalement ce que la société est en train de changer vers cette prise en compte de cette nécessité de pouvoir accéder un jour, ou si elle le souhaite ou pas, hein, cette petite Colette, à des informations sur son donneur.
Alors, c'est-à-dire ce que les parents sont en train de devenir ?
Eh bien, je crois que la société, elle évolue. La PMA avec don, elle existe depuis longtemps. Elle est organisée en France depuis 1974. Il y a eu une époque, et je crois que ici on a l'une des grandes spécialistes de cette histoire, notamment des centres SECOS. On en reparlera.
Les centres où on organise la gestion et le don de gamètes, oui.
Bon, eh ben pendant quand même longtemps, c'était le règne du secret, hein. C'était le règne de, on fait comme si on cache la stérilité et on met tout en œuvre pour que et donc du coup les enfants ne sont pas au courant. Mais dans le cadre de ce don qu'elle reçoit, Marie du Danemark, c'est quand même très particulier. Moi, je crois comprendre que c'est la société Krios qui organise ça sous forme de dossier. On peut discuter du fond, de la façon dont c'est fait, dont on présente ces informations.
En tout cas, Colette, si elle le souhaite, aura accès à son père biologique. D'ailleurs, Marie, vous préférez le terme de donneur ou de père biologique, vous ?
Je parle plutôt de son donneur, mais en fait, ça, les deux me vont. Je trouve qu'il y a quelque chose à... Voilà, il faut se détendre, je trouve, sur ces mots-là, en fait, sur l'enjeu de ces mots-là.
Vous êtes d'accord avec ça, Geneviève de
Lisbonne ? J'ai remarqué...
Père biologique ou donneur ?
Dans mon expérience, j'ai remarqué que les couples préféraient le terme donneur, les femmes seules préfèrent le terme de père biologique.
Pourquoi ?
Les femmes seules sont finalement à la recherche d'un père même, pas d'un père au quotidien, mais d'un père pour leur enfant. Donc ça, l'idée de père leur plaît davantage que d'honneur. Alors que les couples n'ont pas envie de quelqu'un d'autre dans le couple.
Marie, que direz-vous à Colette plus tard si ça n'est pas déjà fait ?
Je lui raconterai tout, évidemment. Je lui raconte absolument tout. Aujourd'hui, en fait, je suis pas... comment dire, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai su que j'étais enceinte, c'est d'aller voir un pédopsychiatre pour justement savoir comment et quand il fallait que je formule les choses. Et il m'a dit une chose qui m'a, moi, très apaisée. Il m'a dit, les enfants posent des questions dont ils sont prêts à entendre les réponses. Alors aujourd'hui, évidemment, Colette, elle parle pas, donc c'est plus simple. Mais moi, quand je lui parle, je préfère lui parler plutôt de ce qu'elle a plutôt que de ce qu'elle n'a pas, en fait. Et c'est ça que j'essaye de valoriser très fort, c'est tout ce que je mets en place autour d'elle pour lui apporter une vie et quelque chose, une éducation qui soit extrêmement douce et bienveillante et heureuse et avec plein de gens, une communauté de gens tous très attentifs à son éducation, en fait. Elle a plein de mamies, des papis, des cousins, des parrains, énormément de parrains, des auxiliaires à la crèche, enfin chacun. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de grande bienveillance et d'accueil autour d'elle qui font que ces gens-là investissent beaucoup aussi, ont conscience de leur rôle à jouer. Et c'est paradoxal, mais presque le fait d'être seule, mais plus de gens autour d'elle encore que peut-être un enfant dans une cellule familiale classique, quoi. Et moi, ça me semblait important parce que toute ma grossesse, je me disais, il y a un proverbe en Afrique qui dit qu'il faut un village entier pour élever un enfant. Et c'est ça, en fait, pour moi, c'est l'idée que c'est la communauté qui éduque, et c'est ce que je m'applique à créer autour d'elle, en fait, une sorte de communauté avec ma famille, notre famille, nos amis, qui investissent quelque chose et qui ont un rôle à jouer pour accompagner cet enfant, mais comme n'importe quel autre enfant, il me semble, dans la société aujourd'hui, quoi, et comme n'importe quel autre parent, surtout, je pense.
Merci infiniment, Marie, d'avoir ouvert le bal. Qui sait, ça donnera sans doute à d'autres l'envie de nous appeler, et ils auront raison. Alors, pour être tout à fait honnête, nous voulions consacrer cette émission à la stricte question de l'anonymat, de la levée du secret, de la filiation, on va le faire, mais disons qu'on a été rattrapé par l'actualité. Édouard Philippe, hier, à l'Assemblée nationale.
Les états généraux de la bioéthique se sont achevés il y a un an. Le Parlement s'est également saisi de ces questions. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Sur certaines questions... Sur certaines questions, comme l'accès aux origines, le régime de filiation en cas de PMA avec tiers donneur, plusieurs options sont possibles. Et le gouvernement a retenu celle qui lui semblait le plus à même ou les plus à même de permettre un débat apaisé. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire.
Quand vous entendez ça, Vincent Bresse, vous vous dites quoi ?
Bon, alors on parle un peu politique. Alors, c'est pour nous vraiment un grand moment quand même. Hein. D'abord, c'est les mots accès aux origines. Et ça, c'est très important.
Il dit qu'on va en discuter. Il ne dit pas. On va lever l'anonymat pour le coup. Alors, il peut se passer encore beaucoup de choses. Hein.
Alors parlons des mots. Parlons maintenant vraiment d'accès aux origines. Pour moi, c'est hyper important parce que lever de l'anonymat, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, on pourra en débattre.
Oui, dites-nous.
Bon, nous, on ne dit pas qu'il faut lever l'anonymat parce que on veut renverser. En fait, c'est par rapport à nous, enfants, d'avoir le droit de l'accès aux origines. L'anonymat, il doit rester, selon nous, hein, pour le reste de la société. Le donneur, il ne concerne que cet enfant-là. On peut aussi, par rapport aux parents, est-ce que le parent il doit connaître l'identité de ce donneur ? Nous, on ne le pense pas. Ça, c'est vraiment.
C'est-à-dire pour vous, l'accès aux origines, c'est le fait de se placer du point de vue de l'enfant et de se dire que cet enfant-là va pouvoir avoir un certain nombre d'informations, voire rentrer en contact avec son père biologique, mais que ça ne le concerne que lui.
C'est ça.
C'est ça.
C'est pour ça qu'on parle de droit d'accès aux origines plutôt que de lever de l'anonymat. Donc ce terme-là, qui pour nous, ce glissement sémantique, pendant des années on a parlé de lever de l'anonymat, maintenant on commence à parler d'accès aux origines, qui résonne comme ça dans la bouche d'un Premier ministre, à l'Assemblée nationale, c'est une première. Hein, et pour nous, c'est un grand moment d'émotion.
Et c'est un premier pas. Après, Édouard Philippe le sait, les mentalités bougent. Hein, un sondage publié hier le confirmait. Plus de 60% des Français qui sont favorables à l'ouverture, à l'extension de la PMA à toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou célibataires. Et puis, une semaine avant, un autre sondage IFOP début juin, 75% des Français souhaitent que les enfants nés d'un don puissent accéder à leurs origines. Ça, c'est une mutation profonde, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. La PMA en France s'est construite sur l'anonymat strict. Geneviève Delezy de Perceval, au nom de quoi cet anonymat strict ? On voulait protéger qui ?
Protéger le père stérile. C'est-à-dire ? Ce qui partait d'une bonne intention au départ. À partir du moment où la loi donnait à l'enfant né par IAD le statut d'un enfant habituel.
Par IAD, insémination à domicile
par donneur. Il est écrit dans le code civil qu'il est l'enfant du père et de la mère ou du conjoint de la mère ou du. Bon, et donc le père on roulait pour la paix des familles à l'époque.
C'est ça. On pensait que ça permettait de ne pas faire exploser la cellule familiale.
Oui. Puis c'était aussi c'était un peu réparer la blessure narcissique de la médecine qui ne pouvait rien faire pour guérir la stérilité masculine. Alors que pour les femmes, il y a eu, dès bien avant la fécondation in vitro, il y avait des opérations, des trompes, etc. Là, toujours maintenant, on ne sait pas guérir la stérilité masculine.
Donc on protégeait le père.
Oui.
Et on protégeait les médecins. On a une question, on a Vincente au téléphone. Bonjour Vincente, je crois que vous avez... Vincenta, pardon,
oui.
Excusez-moi.
Oui.
Vous avez une question à poser, je crois, à nos invités ce matin.
Oui, bonjour, je vous remercie d'avoir pris mon appel. J'ai une question, je suis maman de jumeaux, née par don de tiers d'honneur. Mon mari est totalement stérile. Et j'avais une question par rapport à l'actualité et aux annonces du Premier ministre et aussi aux réactions que peuvent avoir vos invités. La garde des Sceaux aussi ce matin a dit justement que le statut, enfin ce qui est statué dans le code civil, c'est-à-dire le régime de la filiation par tiers d'honneur, donc autant pour les couples aujourd'hui comme nous, parents stériles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais demain aussi pour les couples de femmes qui voudraient avoir un enfant, ce régime va changer. Est-ce que ce changement qui aujourd'hui est à l'étude de la Cour constitutionnelle, va être rétroactif ou pas. Et après, j'aimerais poser aussi une question spécifique sur l'accès, le droit d'accès aux origines. Nous, en tant que parents, ayant fait un parcours de longues années de stérilité, on a choisi pour nos enfants de leur communiquer, aujourd'hui on leur dit, que, avec les mots d'enfant, qu'ils sont nés par le don de la graine d'un homme, on leur explique, mais on aimerait que cette accès aux origines soit purement médical, c'est-à-dire si demain il devait avoir un problème comme une maladie génétique ou pas. On a peur que, enfin nous la figure de père c'est la figure de mon mari, c'est le père qui les fait grandir, qui les accompagne, qui donne son amour. Voilà, donc ma question était purement vraiment sur le statut à venir du régime de la filiation avec ses actionnaires, donc le statut qui est inscrit aujourd'hui sur la carte d'identité de mes enfants, sur l'acte de naissance, et après, c'est cet accès, droit aux accès d'origine, ça va être l'identité du père donneur ou bien juste son fichier médical.
Alors, sur ces deux questions, Vincent Bresse, ces deux questions, un, la rétroactivité, et deux, le niveau d'information qu'on communiquerait aux enfants. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ?
Alors, juste quand même, ça me permet de revenir sur un point qui me paraît le plus important. Et s'il y a un message que j'aimerais faire passer, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est la figure du père. Le donneur, la confusion avec le père ou pas. Moi, ce que je voudrais dire, et en mon nom, en nom de mon association...
Parce que vous-même, vous êtes issu d'un don de gamètes et vous présidez cette association qui rassemble que des enfants qui sont...
Non, pas que. Il y a des parents, il y a des donneurs,
on est nombreux. Je pensais à votre livre, en fait. Voilà. Excusez-moi, je pensais à votre livre dont j'allais parler tout à l'heure. Mais
dans notre livre, il y a aussi des témoignages de donneurs. Donc moi, en tout cas, pour témoigner pour ces personnes-là qui l'ont vécu qui le vivent aujourd'hui dans leur chair, il n'y a aucune confusion. Et ça, si vraiment j'ai un objectif dans la vie, c'est de le faire comprendre ça, que notre père, c'est vraiment celui qui nous a élevés. C'est ça le plus important. Et il n'y a aucune confusion. Le donneur, c'est une figure, pour l'instant on n'en a aucune info, et qui ne fait qu'apporter de l'hérédité. On aimerait la connaître, on aimerait en savoir plus, on a besoin de ça pour se construire, mais je remarque que s'il y a bien des personnes qui sont très protectrices de leurs parents et de leur père dans le cas d'un don de sperme ou de leur mère pour un don de ovocyte, de cet attachement à leur filiation, c'est bien nous. Donc ça c'est
le premier point. Et sur la rétroactivité.
Sur la rétroactivité, aucun pays à l'étranger ne l'a fait. Il y a que à part en Australie, nous c'est pas ce qu'on demande. On demande pas ça. Les donneurs qui sont à l'origine de notre naissance, ils l'ont fait dans un cadre bien particulier où on leur avait promis l'anonymat. On verra que cet anonymat c'est de plus en plus difficile de leur promettre. Mais on veut pas faire de rétroactivité. D'un point de vue juridique, je suis pas juriste, mais c'est compliqué aussi.
Mais il pourrait y avoir une mise en relation sur la base du volontariat.
Voilà, exactement.
Des donneurs avec la mise en place d'un registre qui serait mis en place par ces fameux sécoses. Donc, Vincetta, pas de rétroactivité. J'espère que ces réponses qu'on a répondu à vos questions. Vous, qu'en pensez-vous? Vous avez eu recours à une PMA, vous avez opté pour l'anonymat ou pas? Dites-nous pourquoi. Ou alors vous hésitez encore? Profitez-en, posez-nous les questions qui vous travaillent, soit par écrit, soit sur l'appli France Inter ou sur notre page Facebook. Nicolas Beauve attend vos messages. Ou bien encore mieux, appelez-nous au 01 45 24 7000. Césaire Blin et Margot Le Guen sont au standard ce matin. Promis, ils sont très gentils.
À chaque pas,
Émilie Simon, avec cette jolie balade dans le désert qui vous promène sur France Inter, on parle PMA et anonymat ce matin dans Grand Bien vous fasse avec Alexia Rivière et Alexia Lacour à la programmation et à la coordination de cette émission. Gilles Gaillard et Pierre-Yves de Rolin à la technique. David Leprince à la réalisation. La psychanalyste Geneviève Delézy de Parseval et Vincent Bresse, président de l'association PM Anonyme, sont nos invités. Et allez hop, on est reparti.
De 1988 à 1990, vous avez fait 693 dons de sperme sous le nom de Fonzie.
Grand bien vous fasse.
Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité.
Julia Foyce.
Vous avez un sperme d'une très grande qualité, monsieur Costa.
Sur France Inter.
Alors là, voilà un des fantasmes qui circule au plus vite quand on ouvre la boîte à PMA, le donneur multirécidiviste qui aurait inondé la planète entière de son sperme et se retrouverait avec des dizaines d'enfants dans le monde entier. Elle est tenace, hein, cette idée. Elle vient d'où? Elle véhicule quoi, Geneviève Delézy de Parseval?
Bon, c'est pas complètement idiot. Il y a encore maintenant c'est un certain nombre de cliniques en France et à l'étranger où il y a des donneurs payés, qui donne plusieurs fois par semaine pendant des années.
Oui, après, le nombre de naissances est strictement encadré et limité. En France, c'est limité à 10. Au Danemark, c'est limité à 10 aussi.
Oui.
Les choses sont quand même encadrées aujourd'hui.
Mais avec des jeunes gens...
Commence à faire 25 ans.
Voilà, oui.
Oui.
Ça commence à être strictement encadré, non?
Oui, là, maintenant, oui.
C'est encadré, mais il y a encore beaucoup de circuits parallèles, et puis à l'étranger. Le fantasme du patriarche, ce que j'appelle le fantasme du patriarche, c'est que il y a un donneur qui a en effet inondé non pas la planète mais la France ou Paris.
Du monde et ça n'est pas.
Et c'est pas complètement délirant. Enfin, c'est plus le cas dans le cadre des sécosses, mais c'est un fantasme qui a droit de cité. Je veux dire, c'est pas du délire.
D'où l'intérêt d'avoir accès à ses origines, on y reviendra bien sûr, mais on a Julie en ligne avec nous. Bonjour Julie.
Bonjour.
Vous avez 31 ans, vous êtes en pleine réflexion autour de la PMA. Où en êtes-vous précisément?
Alors, j'en suis que... Alors, c'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant, puisqu'on parle beaucoup là du don de sperme, mais le don d'ovocytes, c'est aussi un grand sujet. En France, moi, tous les médecins m'orientent vers l'étranger. Simplement parce qu'en France, le délai moyen d'attente dans les sécos, il est de 2 ans et demi, pour recevoir en plus un don qui n'est pas forcément de bonne qualité, puisqu'il y a très peu de donneuses en France et que ces donneuses, elles sont âgées. Donc, du coup, des chances de réussite qui sont plus minces. Donc, on me pousse à aller à l'étranger. Et à l'étranger, c'est plus simple. Il y a moins d'attente, certes, mais ça a un coût qui est très élevé. On me demande en moyenne 10 000 euros. Alors, la Sécurité sociale me propose de m'aider, de prendre en charge à hauteur de 1 500 euros les frais. Donc, ça veut dire que, quelque part, l'État français est conscient du problème. Moi je suis clairement pour que tout ça s'ouvre, mais il faut quand même déjà savoir qu'à la base il y a un problème de fonctionnement et de disponibilité du don.
Sur la question de l'anonymat, vous en êtes où dans votre tête, je veux dire?
La question de l'anonymat, elle se pose dès aujourd'hui parce que c'est déjà une décision qui est difficile et douloureuse à prendre. Maintenant, la question, c'est le choix du pays. Est-ce qu'il faut que je me rende dans un pays où l'anonymat est total, comme en Espagne, ou est-ce qu'au contraire, il va falloir choisir et anticiper une éventuelle question de l'enfant plus tard quant à l'identité de sa mère génétique? Sachant que si on veut faire appel à un don qui n'est pas anonyme, c'est encore plus cher. Il va falloir dans tous les cas faire un crédit pour financer ce projet. Est-ce qu'il va falloir payer encore plus cher pour pouvoir
effectivement, avoir accès aux origines, on comprend que ça ait un coût supplémentaire, non, Geneviève Delézy de Perceval?
La question du don d'ovocytes, c'est compliqué, parce que c'est très différent du don de sperme, parce que dans le don d'ovocytes, la vraie mère, celle qui accouche, est enceinte, et l'expression mère génétique, moi je pense que c'est vraiment très très discutable. Il n'y a qu'une seule mère, c'est celle qui a voulu l'enfant et qui le porte et qui en accouche. Alors je crois que pour répondre à votre auditrice, qu'elle
Julie
se casse pas trop la tête, si elle va en Espagne, c'est très bien géré, et je suis persuadé que d'ici quelques années, l'Espagne fera comme nous, j'espère, c'est-à-dire qu'elle reviendra sur l'accès aux origines.
Dire que pour vous, il est plus essentiel de lever l'accès aux origines pour les dons de sperme que pour les dons d'ovocytes?
Oui, parce que le don d'ovocytes, de toute façon, la mère porte l'enfant. Et elle pourra montrer à l'enfant les photos d'elle enceinte. Enfin, bon. Ouais. Il y a effectivement un supplément. Il y a un don d'hérédité comme dans le don de sperme. Mm-hmm. Mais il y a une grosse différence, c'est que la mère est enceinte. Il y a un don de corps de la mère légale qui ouais. est très important.
Merci Julie d'être intervenue ce matin dans Grand Bien vous fasse. Profitez de vos grâces matinées parce que ça arrive plus vite qu'on ne le croit parfois ces petites choses-là. Hein. Vincent Bresse, à la tête de votre association PM Anonyme, vous œuvrez, donc on le disait, pour la levée du secret des origines comme telles. Vous avez publié un livre tout à fait inédit, son titre « Je suis l'une d'entre elles, la première génération de personnes conçues par PMA avec don » témoigne. 27 témoignages au total. Des donneurs, vous le disiez, des enfants aussi, de tous milieux, de toutes origines. Mais sur ces enfants issus de dons, quel serait leur point commun aujourd'hui?
Oui, c'est
des profils différents.
C'est la bonne question parce que dans ce projet de livre, ce qu'on a un peu voulu démontrer, que je crois je suis assez fier de ce résultat, c'est qu'il y a des histoires très différentes, des ressentis très différents mm-hmm. par rapport aux parents, par rapport à l'âge de la découverte de ce secret, par rapport au parcours personnel des personnes. Et malgré toutes ces différences, le dénominateur commun qu'on va retrouver dans ces témoignages, c'est cette demande impérieuse, cette demande forte, cette demande vitale d'un point de vue de la construction de la personnalité, de l'accès aux origines.
Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'accès aux origines, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Le Comité national consultatif d'éthique a rendu un rapport en septembre sur le sujet. Lui, il est pour une levée de l'anonymat sous réserve que le donneur soit d'accord. Et en même temps, il le précise, tous les enfants ne souhaitent pas avoir l'identité de leur donneur, voire le rencontrer. Et donc, il propose une sorte de lever du secret un peu à la carte, en fonction des demandes des enfants et de l'accord du donneur. Pour certains, ce serait juste des données morphologiques ou médicales, et pour d'autres, ce serait l'identité du donneur. Ça, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'était pas facile d'avoir cette lecture du CCNE parce que elle est pas claire justement sur cette petite partie que nous on appelle le double guichet, c'est-à-dire la possibilité pour le donneur, et non pas pour l'enfant, mmh. de décider, une fois que la demande arrive, 18 ans après ou 16 ans après, c'est à définir, l'enfant souhaite accéder à l'identité de son donneur, et le donneur décide à ce moment-là s'il la donne ou pas. Ou alors, une autre version, c'est au moment de son don, il décide de le faire ouvert ou pas. Nous, on est mais vraiment totalement contre. Ça serait pour nous une catastrophe, ça serait vraiment très grave, parce que ça serait une rupture d'égalité très profonde. Vincent, je demande, j'obtiens. Une autre, Camille, elle demande, elle l'a pas. C'est insupportable. Et si on parle de droit, si on parle d'éthique, elle ne doit pas. Ça veut dire que quoi? On revient à une forme d'infantilisation pour des gens qui sont comme moi, la quarantaine.
Il y a un petit peu parfois chez certains opposants à l'ouverture de ces dossiers-là, chez certains, pas tous, mais il y a effectivement cette infantilisation des enfants nés de dons. On dit mais les pauvres, ils vont être déçus, ils se rendent pas compte. Ce sont des enfants en souffrance et c'est pour ça qu'ils recherchent un père, etc. Qu'est-ce que vous répondez à cet argumentaire-là?
C'est un argument paternaliste. Il faudrait analyser les ressorts psychologiques, souvent tenus par des médecins peut-être de l'ancienne école. J'en sais rien, mais nous ça va bien. Franchement, dans nos vies, on a nos vies. On fait pas que ça. On a des enfants. On a des métiers. On sait exercer nos droits. Simplement, on dit aujourd'hui en France, elle est à la traîne d'un point de vue éthique, d'un point de vue juridique. Rattrapons-les parce que c'est assez naturel et normal de disposer de l'ensemble des informations qui concernent sa narration personnelle.
Guillaume a été conçu par PMA, il est en train de rechercher son donneur et il explique pourquoi aux caméras de France Télévisions.
J'aimerais bien savoir à qui je ressemble, j'aimerais bien voir quelqu'un qui me ressemble un petit peu plus que les autres membres de ma famille. On nous dit qu'à l'époque, tous les donneurs c'était des étudiants en médecine. Moi j'ai choisi une filière médicale, alors que je savais pas d'où j'étais issu. Mes parents, ils étaient pas du tout scientifiques, pas du tout dans le domaine médical. J'ai personne dans ma famille qui est du domaine médical. Un père, on en a un, tous, et on en a qu'un seul. On n'est pas en quête de filiation, on est en quête d'identité. Et cette quête d'identité, elle passe par l'identification du donneur.
Geneviève Delizy de Perceval, Guillaume fait une différence très nette entre quête de filiation et quête d'identité. Vous êtes d'accord? Il y a cette différence-là à faire.
Ouais. Complètement. Mais je voudrais dire un mot sur le donneur dont on parle peu. Parce que lui aussi est infantilisé. Si on le prenait pour quelqu'un de responsable, on lui dirait « Monsieur, vous donnez, mais vous n'êtes pas obligé de donner. » Personne n'est obligé de donner. Mais si vous donnez, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne depuis déjà plus de 20 ans, et ça se passe très bien, si vous donnez, sachez que l'enfant né grâce à vous, à sa majorité, aura le droit de connaître votre identité complète. Mmh. Ça se passe aussi en Suède, enfin dans bien d'autres pays. Et je crois que là aussi, il s'agit de responsabiliser tout le monde. Mmh. Et il peut dire, non, moi je veux pas du tout.
C'est avoir... de laisser le choix, en fait.
Oui, mmh. Laisser le choix. Mais laisser le choix de donner ou de ne pas
ou
donner.
Ou de ne pas donner.
Mais pas de donner sous condition. De donner comme maintenant, en disant donner, mais
pourquoi ne pas donner sous condition?
Le double guichet dont parlait Vincent Bresse.
Oui, c'est
que du coup il y aurait une inégalité entre les enfants.
S'il donne, il donne avec son identité à la majorité de l'enfant.
Et sur cette question, la différence entre quête de filiation et quête d'identité, est-ce que vous pourriez expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est que cette différence-là?
La filiation, c'est une notion complètement juridique. La filiation en France n'est pas la même que la filiation chez les Bambara d'Afrique de l'Ouest ou même dans certains pays d'Amérique latine. La filiation, c'est le droit dit à quelqu'un, à vous, à moi, à Vincent, vous êtes vous êtes la fille ou le fils de monsieur ou madame. C'est une notion juridique.
Ouais. Là, il n'y a pas de quête du tout. Hein. Comment? Encore une fois, je le répète, il n'y a pas de quête de filiation. Elle est très claire pour nous.
Non, il n'y a pas de quête de
filiation. On veut la défendre.
Parce que madame me demandait ce que c'est que la filiation. Bon, l'identité, c'est autre chose. L'identité, c'est... je prends un exemple banal. J'ai les cheveux blonds, je suis grand, ça me vient d'où? Alors, au-delà de la...
C'est important de le savoir.
C'est important, surtout que ça, j'ai pris un exemple très banal, mais il y a toutes les tares que nous baladons chacun d'entre nous.
Des antécédents médicaux, c'est ça, des choses comme ça?
Oui. Mais vous allez maintenant chez n'importe quel médecin, si vous êtes une femme, elle vous demandera à quel âge est-ce que votre mère a été ménopausée, à quel âge, si elle est morte, de quoi est-elle morte, etc. Enfin, bon, l'identité génétique fait partie maintenant de l'histoire de chacun.
Dans les faits, Guillaume arrivera peut-être à retrouver la trace de son donneur. Il a fait un test ADN, ils sont interdits en France aujourd'hui et Guillaume risque 3 750 € d'amende, mais on peut le faire aux États-Unis. Donc quoi, Vincent Bresse, de toute façon, l'anonymat du donneur n'est plus vraiment garanti?
C'est une certitude aujourd'hui. Nous, dans l'association, on a répertorié 16 donneurs qui ont été identifiés. Donc les gens nous appellent, nous disent j'ai retrouvé mon donneur grâce à des tests ADN. Donc c'est plus et je crois que même la ministre, hein, Madame Buzyn, l'avait bien perçu, hein, l'avancée des ce que l'État nous a enlevé il y a des années, la technologie est en train de nous le redonner. Voilà, c'est un fait technique aujourd'hui.
Vous êtes né d'un don, vous vous apprêtez à en faire un ou bien en recevoir un. Bref, la PMA vous concerne directement. Racontez-nous votre parcours, vos réflexions. Écrivez-nous sur l'appli France Inter ou sur notre page Facebook ou bien appelez-nous au 01 45 24 7000. Promis, si vous le souhaitez, vous resterez parfaitement anonyme.
Fuck is your motive? Man, I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not apology. You are such a distraction. That's what Tiana are. Fucking up my ambiance. Pause. You drive me cuckoo and I call. Cause I want you like Leon. Fuck that. Okay, say it, get it. Fuck that. Okay, wait a minute. I dread that shit, I am on. Walk curiosity, keep the feline. I'm not.
attention. I'm off balance, I need some fix, son. I'm your puppet, you are Jim Hanks, son.
Ça fait du bien. Bon petit rap de bon matin, surtout quand c'est Tyler the Creator avec ce tout dernier titre, I Think, extrait de son dernier album, une pépite extraite pour vous du Vivier France Inter par notre programmatrice musicale Muriel Pérez.
Julia Foyce, grand bien vous fasse sur France Inter.
Faut-il lever l'anonymat sur le don de gamètes? Faut-il offrir aux enfants nés d'un don l'accès à leurs origines? C'est la question qu'on se pose ce matin avec la psychanalyste Geneviève Delézy de Parseval, avec Vincent Bresse, président de l'association PM Anonyme, et avec vous, Natacha. Bonjour.
Bonjour.
Ah, on vous entend mal. On va faire un petit essai. Avec votre compagne, Sarah, vous êtes les mamans de Sacha, petit garçon de 9 ans. Qu'est-ce qu'il sait de son histoire?
Tout à fait. Qu'est-ce qu'il sait de son histoire? Bah, écoutez, il sait tout, puisqu'on lui a raconté dès son plus jeune âge. On lui a expliqué qu'il a été conçu par procréation médicalement assistée en Belgique et qu'un donneur qui est anonyme, en fait, a fait un cadeau et a donné une petite graine qui a permis de concevoir Sacha.
C'est fou parce que Geneviève Delézy de Perceval, Natacha nous dit exactement la même chose que Marie. Les opposants à la PMA n'arrêtent pas, ont comme argument principal de dire qu'on va mentir aux enfants, qu'on va leur mentir sur leur filiation. On se rend bien compte que là, pour le coup, ces parents-là sont dans la transparence, alors que les couples hétérosexuels, vous me le disiez hors antenne, ont plutôt tendance à ne pas en parler.
Oui, oui. Oui, c'est un paradoxe. C'est que les couples de lesbiennes, bien sûr, le disent. Aucun problème.
De toute façon, ils ne pourraient pas raconter autre chose. Ils ne peuvent pas être.
Oui, alors que les couples hétéros ont tendance, et c'était un peu l'histoire de l'IAD, enfin de l'insémination par donneur, à ne pas le dire pour soi-disant protéger le père. Enfin, dire soi-disant, non, c'est pas soi-disant. Il y a des pères qui vivent très mal la stérilité.
Et donc, il y aurait plus d'enfants nés par PMA que les chiffres officiels, que les 70 000.
Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais. 70 000, comme vous dites, les chiffres officiels, il y en a peut-être au moins le double ou le triple.
Parce que pour vous, en France, la majorité des enfants nés d'un don ne le savent pas.
Je crois. Je ne suis pas la seule à le penser. Tu es d'accord, Vincent?
Oui, il n'y a pas beaucoup d'études en France. Si on va chercher un peu les études dans les pays anglo-saxons, c'est à prendre avec des pincettes, mais ce qu'on a comme chiffre, c'était plutôt 1 pour 10 qui le serait.
Ah oui, d'accord.
Après, quand même, il faut quand même reconnaître, et c'est ce que je disais, hein, par rapport à l'évolution de la société, je crois qu'aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait dans les SECOS, par les médecins, de pédagogie, il y a un gros travail des associations de parents, la nôtre aussi, on travaille beaucoup pour dire le secret, c'est bon pour personne, et je crois que ça évolue, je crois que de moins en moins, j'en suis assez persuadé, il y a de moins en moins de secrets de famille sur ce sujet-là, mais il en reste.
Natacha, vous êtes rentrée en France en décembre dernier pour vous aviez fait un tour du monde, ou presque, de la PMA. Pendant 2 ans, tous les trois, donc avec votre compagne Sarah et votre fils Sacha, vous avez parcouru une bonne partie de l'Asie et de l'Amérique latine. Vous vouliez rencontrer d'autres familles comme la vôtre, d'autres modèles qui vous ressemblaient?
Excusez-moi, j'ai pas entendu la question.
Je parlais de votre tour du monde, votre PMA World Tour, si je puis dire. Vous êtes passé par un certain nombre de pays d'Asie et d'Amérique latine. Je peux pas tous les faire là, tellement il y en a. C'était quoi l'idée de ce tour du monde?
Alors, l'idée de ce tour du monde, c'était d'aller rencontrer des familles qui sont comme nous, c'est-à-dire soit avec deux mamans, mais aussi avec deux papas, et dans des pays comme l'Asie ou l'Amérique latine, de montrer qu'en Europe, on a de plus en plus de couples de mamans avec d'enfants, qu'on a de plus en plus de droits, mais qu'on en veut encore plus, et que montrer que même en Europe, le combat continue.
Geneviève Delésite-Perceval, si on regarde le monde avec ces lunettes-là, on se rend compte que la PMA est anonyme plus tôt dans les pays latins et que si l'accès aux origines est permis, c'est plus tôt, je dis bien plus tôt, dans les pays anglo-saxons et protestants. Pourquoi ?
C'est une question complexe. Nous sommes.
Il vous reste 11 minutes avant la fin de l'émission.
Oui, d'accord. Si vous me donnez une demi-heure, pas de problème. Nous avons une tradition religieuse très très forte. Et au départ, le don de sperme était assimilé à l'adultère. Adultère, évidemment, ou vous aviez un enfant de votre mari, ou bien si vous en aviez quelqu'un d'autre, c'est que vous aviez couché avec quelqu'un d'autre, comme dans les nouvelles de Maupassant. Donc, condamnation, évidemment, très forte de l'Église catholique. Et puis, les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques. Dans tous les domaines, par exemple, quand vous êtes vasectomisé, moi j'ai appris ça, quand vous êtes vasectomisé à New York, vous avez un petit pin sur votre veste pour c'est une méthode de drague pour en dire, vous voyez, avec moi vous risquez pas d'avoir un enfant.
C'est pas du tout la même approche globale de toute façon de la parentalité, de la filiation.
Nous sommes des sociétés latines.
Avec une place pour le père aussi très
oui
c'est plus important, plus patriarcal, plus Natacha, vous êtes dans certains pays que vous avez traversé, la PMA n'est pas anonyme. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ça changeait quelque chose pour les familles ou pour les enfants que vous avez rencontrés?
Je suis désolée, à chaque fois que vous parlez, je ne vous entends pas.
Et pourtant, Dieu sait que je parle fort et qu'on me le reproche. Hein. Non, je vous disais que quand vous passez dans des pays où la PMA n'est pas anonyme, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que ça changeait quelque chose pour les familles? Ah, vous n'entendez plus? Je suis désolée. Alors du coup, on va devoir se laisser, Natacha, parce que l'heure court et qu'on a beaucoup d'appels. Je vous embrasse. Embrassez Sacha et Sarah pour nous. Encore mille excuses, mais la liaison, vraiment, n'est pas bonne. Vincent Bresse, d'après les Sécos, 75 à 80% des donneurs ne souhaitent pas révéler leur identité. On a un mail d'ailleurs de Caroline qui nous dit qu'elle est en parcours de FIV et qu'elle partage sa chambre avec quelqu'un qui donne ses ovocytes et qui dit « je ne l'aurais pas fait si j'avais pu être contactée par les enfants qui auraient pu naître de ce don ».
Oui, bah, c'est sûr que si vous demandez à des fumeurs en sortie chez un buraliste s'ils sont d'accord pour augmenter le prix du paquet ou interdire le tabac, ils vont dire non. Je crois que ce changement de paradigme social, hein, par rapport aux enfants comme moi et comme nous dans l'association, il entraîne, et c'est ce qu'on voit dans les autres pays, hein, quand on s'épanche sur ce qui s'est passé, il entraîne un changement de la population des donneurs. Ça, c'est un premier point. Ils évoluent, ce sont souvent des gens plus âgés, plus, on va dire, qui sont plus installés, qui ont déjà eu des enfants, etc. Après, il y a aussi un gros effort, je crois, en France, on a de la marge de progression sur la communication.
C'est ça. Pour le coup, dans les pays anglo-saxons, ça fait des années qu'ils font des campagnes absolument. Pour le don du sperme, comme nous, on a des campagnes pour le don du sang.
Moi, je les trouve un peu plus sympas que celles qu'on fait, peut-être un peu nunuche. En tout cas, on peut travailler, on peut y réfléchir. Mais il y a aussi des messages à faire passer. Tout à l'heure, on l'a juste évoqué très rapidement. Le droit d'accès aux origines, c'est de connaître son origine. Ça ne veut pas forcément dire de rencontrer.
Pas un droit à la rencontre.
Voilà, c'est ça. Il y a le bon vieux mythe qu'il faut tordre le cou. On va toquer à ma porte pour dire papa. Ça n'existe pas. Derrière, c'est des gens responsables qui n'ont pas non plus eux envie de s'immiscer dans la vie de leur donneur. Ils veulent avoir juste des infos, ils veulent se construire eux.
On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, le risque de pénurie de donneurs à partir du moment où l'accès aux origines serait permis. Est-ce qu'il y a une étude, un pays, dont les statistiques ou les chiffres iraient dans ce sens-là, Vincent Bresse?
Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en Australie notamment. Nous, bon, tous ces chiffres, ils sont disponibles, ils sont sourcés sur notre site internet, hein, PM Anonyme.
Donc, levée de l'anonymat égale pénurie de donneurs ou pas ?
Non. Bien sûr que non.
C'est un mythe.
Non, c'est un mythe.
D'accord.
C'est un mythe. C'est sûr que si on lève en disant il va y avoir des hordes d'enfants qui vont se jeter sur les héritages, oui, ça va. Mais c'est pas ça,
ça
du tout.
Ils ont dissuadé plus, ouais, effectivement.
Mais on... Angleterre, Finlande, il y a plein de pays qui ont, que pour ceux qui font des chiffres qui ont démontré, Suède, en Angleterre, 10 ans après la levée de l'anonymat, plutôt la permettre l'accès aux origines, le nombre de donneurs avait doublé. Alors la demande avait augmenté aussi, mais...
Alors on a un message de Joseph qui nous dit, lui, j'ai aidé des parents il y a plus de 30 ans, je pense qu'il est de mon devoir d'assumer la suite de ma démarche. Les jeunes nés de mes dons ne paieront pas ma maison de retraite, je n'ai aucun devoir de secours matériel à leur égard. Cependant, je serai là pour répondre à la question, s'ils le veulent, quand ils le veulent, il s'agit... pour moi, d'une dette morale. Comme quoi, même les donneurs eux-mêmes sont partagés. C'est ce que vous disiez, Geneviève Delésie-Perceval, à l'instant. L'idée, c'est de leur laisser le choix, de laisser le choix aux enfants, de faire une... c'est de pouvoir ou pas, c'est de pouvoir ou pas avoir accès à ses origines. Quoi.
Que pour le passé, attention, pour le futur, après la loi, ce que je préfère le préciser, non, nous demandons très clairement qu'il n'y ait pas le choix. On n'oblige pas quelqu'un à venir au Sécos et faire son affaire pour donner des dons.
Oui, c'est ce que je disais, pardon.
Par contre, pour le passé... Effectivement, les anciens donneurs, et quand ils arrivent sur la, avec l'âge, avec la réflexion, ils se reposent ces questions et on doit leur reposer.
On a une question de Patricia Geneviève Delésie-Perceval. Elle nous dit, j'ai un fils né de don de sperme. Mon mari ne voulait pas en parler. Doit-on lui dire, il a maintenant plus de 30 ans sur mes 3 enfants. C'est le seul.
C'est le seul à ne pas le savoir.
Alors, visiblement, ce que moi je comprends, c'est le seul à être né d'un don.
Ah, c'est le seul. Et les autres sont nés comment ? Naturellement, alors ?
Je suppose. Ça arrive.
Oui, ça arrive.
Ma sœur.
Je suppose. Alors, faut-il lui dire ou pas ?
Bah, je pense que... C'est d'abord, c'est une question d'égalité entre frères et sœurs. Enfin, c'est toi qui pourrais répondre. Et puis, c'est une question de respect aussi. Pourquoi l'infantiliser en lui cachant une vérité que par ailleurs, dont par ailleurs tout le monde doit se douter plus ou moins. Enfin, non, il faut le dire. Beaucoup de parents viennent consulter d'ailleurs pour savoir quand le dire, comment le dire. Je veux pas, j'aime pas dire il faut, mais dans ce cas-là, ça paraît presque évident. Enfin, le moment, il va y avoir un moment où il faut le droit à lui dire.
Alors, autre message, celui d'Erwan qui nous dit, pourra-t-on considérer un jour que faire famille, c'est construire, aimer, transmettre, partager, vivre en relation et que la génétique n'a rien à voir là-dedans, tant pour la PMA que l'adoption d'ailleurs. Et ça aussi, c'est un argument qu'on entend beaucoup. Mmh. C'est le fait de dire, voilà, si on accorde de l'importance à l'accès aux origines, c'est que de fait, on donne la primauté à la biologie et à la génétique.
Non, c'est pas la primauté. On accorde de l'importance. C'est l'évidence même. Je pense que dans 10 ans, nous aurons tous, ou dans 20 ans, notre carte génétique sur nous. Ouais. Mais c'est pas la primauté. Personne ne dit dans notre association, personne ne dit la preuve, c'est que personne ne dit je cherche mon père. Je cherche mon donneur d'hérédité. Je reviens à mon hérédité. L'expression n'est pas de moi, elle est du doyen Carbonnier, qui était le doyen de la fac de droit à l'époque. On lui avait demandé qu'est-ce que le donneur donne en termes juridiques. En donnant du sperme, il avait dit, il donne son hérédité, c'est-à-dire il donne pas de lui-même son intelligence, son sourire, la forme. Il donne quelque chose qui lui vient de ses ancêtres.
Et encore une fois, ça n'efface pas du coup le rôle, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Vincent Bresse, le rôle du papa, du père, de fait, le père social qui élève, qui éduque au quotidien. On a Sylvie en ligne avec nous. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Vous avez votre fils à 27 ans et il est né avec... un donneur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, dans quelles circonstances, dans quelles conditions ?
Bah, en fait, son papa pouvait pas, son papa non biologique, hein, mon mari ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc très vite, on avait envie d'une grossesse normale et on se dirigeait vers le don de sperme en étant tout à fait, en ayant un vrai désir d'enfant. C'est-à-dire, c'est nous qui avions envie d'un enfant, son père avait envie d'un enfant. Le donneur n'était qu'un moyen biologique de procréation. Donc, pour moi, le donneur n'a pas de volonté de paternité. C'est pour ça que les choses... c'est ce qu'on a transmis d'ailleurs à notre enfant.
Qui le sait ? Et donc, pour vous, les choses sont...
On lui a acheté, d'ailleurs, pour répondre à la question précédente, un petit livre, très vite, hein, quand il a posé la question « Comment on fait les bébés ?» On a introduit aussi ce moyen-là pour lui expliquer qu'il y a les différents moyens d'avoir des enfants. Il sait très bien comment il est arrivé. Il sait qui est son père. et il n'a pas de besoin particulier de retrouver le donneur qui, pour lui, n'est qu'un donneur d'organes.
Voilà, comme quoi, tout dépend des familles, tout dépend des enfants. Merci d'être intervenu, Sylvie, grand bien vous fasse. C'est terminé pour aujourd'hui. Vincent Bresse, je suis l'une d'entre elles, c'est aux éditions L'Harmattan, Geneviève Delésie de Perceval. Vous l'avez préfacé et signé aussi La part du père aux éditions du Seuil. Merci d'être venu dans Grand bien vous fasse aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain.